Et aujourd'hui, nous accueillons Jean-Charles Darmon. Alors, Jean-Charles Darmon va nous parler, lui, du XVIIe siècle. Nous n'avons pas réussi à suivre un ordre parfaitement chronologique, puisque Philippe Roger nous a parlé du XVIIIe, et puis Franck Lestringant, la semaine dernière, de la Renaissance. Ça, c'est lié aux obligations des uns et des autres. Aujourd'hui, avec Jean-Charles Darmon, nous allons parler, je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, notamment de Cyrano de Bergerac. Il est donc professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Nous travaillons ensemble dans le cadre de l'unité du CNRS qui s'appelle République des Savoirs, et il y est le directeur et le fondateur d'une des composantes qui est un centre de recherche sur les rapports entre littérature, philosophie et morale. C'est donc un spécialiste de ces relations entre littérature, philosophie et morale, et qui a beaucoup travaillé sur le libertinage du XVIIe siècle, sur les formes de la pensée morale à l'âge classique, sur la fable, sur la satire notamment, et c'est la raison pour laquelle il était important de le recevoir. Il a donc publié beaucoup de livres, notamment sur Cyrano de Bergerac, Montaigne, sur Gassendi, sur La Fontaine, sur les philosophes, les fabulistes, les satiristes, les moralistes de l'âge classique. Son titre aujourd'hui est « Escrime littéraire et usage de la pointe, Cyrano de Bergerac, d'un genre à l'autre ».
Merci Antoine de m'avoir associé à cette très très belle et très piquante réflexion. Et aujourd'hui, c'est de la pointe et de certains de ces usages que je vais vous parler. Antoine a eu l'occasion d'établir des passerelles entre le 19e et le 17e siècle à plusieurs reprises, et ce serait un très bel objet d'étude en soi, que ces passerelles. Alors, au nom de Cyrano de Bergerac est associé, comme vous le savez, toute une légende, toute une mythologie même. Mythologie qui est devenue, par la médiation d'Edmond Rostand, une sorte de, on pourrait même dire, de mythe national. Alors, l'écrivain Cyrano, le vrai Cyrano, si j'ose dire, né en 1619 à Paris, pas du tout en Gascogne, rien à voir avec Bergerac. Prématurément disparu en 1655, donc l'écrivain Cyrano demeure encore, lui, assez méconnu, il faut bien le dire. Dans les marges de ce qu'on appelle le grand siècle, Cyrano intrigue, Cyrano fascine ou exaspère par ses audaces inouïes, par ses éclats et aussi par ses zones d'ombre. Alors, la redécouverte de l'œuvre de Cyrano au temps du romantisme a eu de très nombreux rapports avec le thème de ce séminaire en matière de littérature comme sport de combat. Cyrano apparaît comme un cas hors pair parmi ces grotesques plus ou moins oubliés que Gautier s'employa à réhabiliter. Gautier écrit ceci: « Nous avons beaucoup insisté sur cette audace et cette témérité de Cyrano, d'abord parce que, depuis Horace, et même à dater bien plus haut, les poètes se sont fait une réputation de couardise. On ne peut plus mériter. Et que nous sommes bien aises d'en trouver un qui ait du courage. » Et soit homme, quoique poète. Ensuite, parce que cette audace et cette sincérité n'abandonnaient pas Cyrano lorsqu'il quittait l'épée pour la plume. Le même caractère de hardiesse extravagante et spirituelle se retrouve dans tous ses ouvrages. Et alors Gautier va même plus loin, en analysant le style même de Cyrano sur le mode d'un duel permanent entre deux facultés, la raison et l'imagination. Chaque phrase est un duel avec la raison. La raison a beau se mettre en garde et se ramasser sous la coquille de sa rapière, la folle du logis a toujours en réserve quelques bottes secrètes qu'elle lui pousse au ventre et qui la jette sur le pré, etc., etc. Vous concevez que cette pauvre raison ne peut pas avoir bien souvent le dessus avec un tel adversaire. Cependant, elle sort quelquefois victorieuse de ce duel inégal et fait regretter qu'elle ne remporte pas plus d'avantages sur sa fantasque ennemie. Alors, dans une telle perspective, Cyrano est doublement exemplaire. En premier lieu, il nous propose un art du combat, mais un art du combat au carré, si j'ose dire, hein, en tant qu'escrimeur légendaire. Cyrano compense, dans notre mémoire, un certain déficit de bravoure parmi les auteurs. En second lieu, en tant qu'écrivain, lorsqu'il quitte l'esprit pour la plume, il inventa des formes de lutte particulièrement inventives et audacieuses, les éclats de son imagination débordante, mettant puissamment à l'épreuve la raison, la fameuse raison classique. Éthos de bretteur, mais de bretteur érudit et polygraphe, mêlant les prouesses de l'esprit et de la plume à celles de l'épée, on trouverait aisément en germe certains éléments de cette mythologie attachée ultérieurement au nom de Cyrano dans la grande lettre de son ami Lebret, qui fit office de préface à l'édition posthume de L'Autre Monde, hein, c'est-à-dire l'histoire comique du voyage dans la Lune, puis du voyage dans le Soleil. Mais c'est essentiellement le voyage dans la Lune qui est publié donc en 1657. Et Cyrano y apparaît déjà, dit Lebret, comme un démon de la bravoure, un être de feu, impertinent, imprévisible, hanté plus que tout autre par le démon de la liberté. Alors, liberté de pensée et d'écriture, liberté aussi rebelle, Lebret insiste sur ce point, à tout lien de patronage. Et ce n'est pas sans réticence, s'il faut en croire Lebret, que Cyrano se résoudra à accepter le patronage du duc d'Arpajon, qu'il hébergera un temps, fera éditer quelques-uns de ses textes, avant de l'abandonner au seuil de la mort. Alors, de Cyrano, on connaît surtout les deux voyages imaginaires, l'un dans la Lune, l'autre dans le Soleil, les états et empires de la Lune, les états et empires du Soleil, ce second voyage étant inachevé. Mais cet ensemble, l'autre monde, trop souvent envisagé dans une sorte d'insularité plus ou moins scandaleuse, ne tombe pas du ciel. Ces deux voyages doivent beaucoup aux expérimentations menées ailleurs par Cyrano, ce polygraphe pressé et trop vite disparu, voyageant hâtivement de genre en genre. Celles notamment auxquelles ont donné lieu une tragédie noire et scandaleuse, la mort d'Agrippine, une comédie, le Pédant joué, et ce dont je vais essentiellement parler aujourd'hui, les lettres diverses, satiriques et amoureuses, dont il importe, je crois, de redécouvrir l'étonnante inventivité, parallèlement aux audaces philosophiques plus évidentes, plus saillantes des deux romans. Une lecture attentive des lettres, parues en 1654, un an avant sa mort, mais dont certaines remontent à l'époque de ses toutes premières productions, une dizaine d'années plus tôt, nous en dit long sur l'extrême importance en ces années d'une figure dont il vient d'être question, et dont Cyrano fut reconnu à sa manière comme l'un des maîtres, l'art de la pointe. L'art de la pointe. Si puissamment associé, dans le cas de Cyrano, à la figure du dueliste, de l'escrimeur. La pointe mettant en jeu non seulement une manière d'écrire et de penser, mais plus globalement, une manière d'être au monde. Nous dirions peut-être aujourd'hui une certaine esthétique de l'existence. Particulièrement emblématique est à cet égard la lettre intitulée précisément « Le dueliste », dans laquelle Cyrano campe sa propre mythologie d'escrimeur à tout va, en l'associant à ce démon du style pointu. « Monsieur, quoique je me porte en homme qui crève de santé, je ne laisse pas d'être malade depuis 3 semaines que ma philosophie est tombée à la merci des gladiateurs. Je suis incessamment travaillé de la tierce et de la carte. J'aurais perdu la connaissance du papier si les cartels s'écrivaient sur autre chose. Je ne discerne déjà plus l'encre d'avec le noir à noircir. Et enfin, pour vous faire réponse, j'ai presque été forcé de vous écrire avec mon épée, tant il est glorieux d'écrire mal parmi des personnes dont les plumes ne se taillent point. Il faudrait, je pense, que Dieu accomplit quelque chose d'aussi miraculeux que le souhait de Caligula s'il voulait finir mes querelles. Quand tout le genre humain serait érigé en une tête, quand de tous les vivants il n'en resterait qu'un, ce serait encore un duel qui me resterait à faire. Les luttes de Cyrano, ses lettres le montrent, semblent se situer dans les marges des querelles, des controverses, des polémiques marquantes de la France littéraire du grand siècle. Et il peut paraître a priori un petit peu incongru d'en parler ici. Ces joutes d'allure violente peuvent sembler de peu de poids. Le sport de combat dont il s'agit ici, si combat il y a, semble limité à la sphère du jeu burlesque même, dont le degré de sérieux est fort problématique. Lutte avec Dassoucy, surnommé l'empereur du burlesque, lutte avec Scarron, qu'il nomme Ronscar, c'est Cyrano qui a inventé le verlan, si vous voulez, lettre contre Soucidas, qui est Dassoucy, évidemment. Bon. Lutte avec Gerzan. On est frappé par le caractère fugace, anecdotique et surtout ludique des volées de pointe envoyées par Cyrano. Charles Sorel écrit ceci dans sa Bibliothèque française. Pour les lettres du sieur de Bergerac Cyrano, on les peut considérer comme étant d'un style particulier, dont elles font l'exemple, qui est d'avoir la plupart de leurs pointes sur les mots par équivoque et sous une double signification. Ce qui n'est fait que pour une matière de raillerie, la plupart de l'ouvrage étant d'un style comique ou burlesque, à quoi cet auteur se plaisait principalement. Les lettres diverses, satiriques et amoureuses, très souvent délaissées au profit de l'autre monde, dont on ne cesse de redécouvrir l'originalité, l'inventivité philosophique. Donc ces lettres ont longtemps été considérées comme de brillants exercices de style, se singularisant notamment, comme le notait Sorel, par un art comique ou burlesque de l'équivoque. Mais on ne peut s'arrêter là. Si elle défie en permanence l'imagination, ces lettres dévoilent aussi, dans ses réalités dérangeantes, un XVIIe siècle dont nous n'avons aucune habitude. La part du jeu est évidemment considérable. La figure de l'escrimeur et celle du joueur, virtuose du langage, s'y superposent sans cesse. Cependant, la pointe, et tout particulièrement la pointe par équivoque, a ici de spécifique qu'elle accroche, qu'elle crochette. Je ne sais pas si on est loin des métaphores du crochet dont parlait Antoine Compagnon l'année dernière. La pointe accroche dans ses mouvements impétueux des éléments polémiques qui vont bien au-delà d'un pur jeu verbal. La part du jeu est certes toujours forte, comme je l'ai dit, mais après les procès de Vanini et de Théophile de Viau notamment, la part du feu n'est jamais très loin de cette part du jeu. Comment s'articulent au juste les jeux d'escrime de la pointe et les luttes philosophiques et morales les plus brûlantes qui ont traversé l'histoire de toute une hétérodoxie, histoire à vrai dire encore mal connue? Que nous disent les étranges duels de Cyrano d'une certaine situation du libertinage érudit et de ses polémiques diffuses en ces années de fronde? Alors, j'envisagerai d'abord les lettres dans ce qu'elles ont de plus évident, c'est-à-dire leur caractère ludique. Poétique de la lutte, le grand jeu agonistique comme symbole du monde. Les premières lettres ont pour titre « Contre l'hiver, pour le printemps, pour l'été, contre l'automne ». Il se met à polémiquer contre les saisons ou en faveur de telle saison. À lire certaines lettres dont les titres commencent par « pour » ou « contre », et sont en eux-mêmes symptomatiques, on a l'impression qu'aux yeux de Cyrano, la polémique relève avant tout d'un jeu. Que signifie au juste polémiquer avec l'hiver, avec l'automne ? Je crois qu'il y a eu, il y a quelques années, une manifestation contre la pluie. Ces polémiques cosmiques ont-elles quelques traits communs avec celles qui frappent Scaron-Ronscar ou Dassoucis-Soucidas dans les lettres satiriques ? Ou encore, ailleurs, avec les lettres dirigées contre les frondeurs, contre les médecins, contre les sorciers ? L'écriture pointue est précisément ici ce qui fait communiquer ces différents espaces, en exhibant dans le jeu des oppositions l'excellence de l'ingenio qui s'y déplace et s'y métamorphose. Si assurément les pointes se retrouvent partout dans l'œuvre de Cyrano, c'est, comme le notait déjà Paul Lacroix, le fameux bibliophile Jacob, qui fit beaucoup pour la redécouverte de Cyrano au XIXe siècle, c'est dans les lettres que les pointes s'affichent dans tout leur éclat en relation avec un ethos spécifique, celui de l'escrimeur-écrivain, qui est en même temps l'escrimeur-joueur. Et au-delà et en deçà des polémiques locales, on a de prime abord l'impression que la polémicité, ici, le combat, la lutte, offre un terrain d'élection au feu d'artifice de la pointe. Cependant, on ne peut pas, comme je le disais, s'arrêter à ce type de constat. Ces jeux sur les formes du discours polémique coïncident avec un déplacement expérimental du point de vue, dont les dimensions scientifiques, morales, politiques, voire métaphysiques, se manifesteront plus amplement dans les voyages imaginaires vers la Lune et le Soleil, mais sont également suggérées au détour de certaines lettres. Les lettres prédisposent à une lecture déniaisée de l'autre monde. La pointe, écrit Cyrano dans un petit traité, en préface d'une petite série de pointes intitulée « Les entretiens pointus », la pointe n'est pas d'accord avec la raison. C'est l'agréable jeu de l'esprit, et merveilleux en ce point qu'il réduit toute chose sur le pied nécessaire à ses agréments, sans avoir égard à leur propre substance. S'il faut que pour la pointe l'on fasse d'une belle chose une laide, cette étrange et prompte métamorphose se peut faire sans scrupule. Et toujours on a bien fait, pourvu qu'on ait bien dit. On ne pèse pas les choses, pourvu qu'elles brillent, il n'importe. En lisant ce propos de Cyrano, à la fois théoricien et praticien de la pointe, on pourrait être tenté de minimiser donc la portée polémique réelle de bien des lettres, où sans rime ni raison, en deçà de toute valeur de vérité, les pointes surabondent, mimant les schémas de la disputatio pro et contra, cette querelle médiévale où on prenait des positions opposées sur des sujets expérimentaux et expérimentalement, en quelque sorte, pour voir qui gagnait. Les structures de l'écriture polémique étant déportées dans un champ poétique où elles se mettent à briller pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour l'éclat qu'elles sont susceptibles de produire. Leur rhétorique agressive, tout entière subordonnée à l'esthétique de la pointe, semble alors pure mise en scène de l'esprit qui s'y exerce. Et on ne peut que songer à leur lecture à bien des remarques du grand ouvrage de Balthazar Gracian, « La pointe ou l'art du génie ». Gracian y faisait de la pointe une rhétorique prenant pour matière la rhétorique elle-même et du renchérissement une exploration de l'impossible. Les tropes et figures rhétoriques sont la matière et comme le fondement pour que sur eux la pointe élève ses excellences. Et ce que la rhétorique tient pour formalité, cet art dont nous traitons le prend pour matière qu'elle couvre de l'émail de son artifice. À première vue, donc, l'aspect polémique des lettres relève d'abord et surtout de cette lutte du langage avec lui-même, de cette rhétorique au carré qui permet à la pointe de briller et à l'esprit de montrer son excellence. Ce que Gracian disait de la pointe par exagération, qui se porte jusqu'à l'impossible et s'élance vers ce qui est contradictoire, pourrait s'appliquer à l'ensemble de l'écriture de Cyrano. Le choix de la polémique, ici, répond aux nécessités d'un style et au ressort d'une imagination par nature excessive. Alors cette subversion ludique de la lettre à caractère polémique est plus que suggérée par une rhétorique de l'hyperbole qui engendre parfois au fil de la plume ce qu'on pourrait caractériser comme une véritable poétique de l'insulte. Si vous avez des insultes à écrire à quelqu'un, vous trouverez là des matrices extraordinaires dans les lettres de Cyrano de Bergerac, qui étaient très appréciées d'ailleurs par Jarry et par certains surréalistes, cet art de l'insulte. Par exemple, à l'encontre de son ancien compagnon, l'empereur du burlesque, Soucidas d'Assoucy, dans la lettre satirique 5. La lettre commence ainsi. « Et par la mort, monsieur le coquin, je trouve que vous êtes bien impudent de demeurer en vie après m'avoir offensé, vous qui ne tenez lieu de rien au monde, ou qui n'êtes au plus qu'un clou aux fesses de la nature, vous qui tomberez si bas si je cesse de vous soutenir, qu'une puce, en léchant la terre, ne vous distinguera pas du pavé. Vous, enfin, si sale et si puant qu'on doute en vous voyant, si votre mère n'a point accouché de vous par le derrière. Encore si vous m'eussiez envoyé demander le temps d'un pécaoui, mais sans vous enquêter si je trouve bon que vous voyiez encore demain, que vous viviez encore demain, ou que vous mouriez dès aujourd'hui, vous avez l'impudence de boire et de manger comme si vous n'étiez pas mort. Ah, je vous proteste de renverser sur vous un si long anéantissement qu'il ne sera pas vrai de dire que vous ayez jamais vécu. Vous espérez sans doute m'attendrir par la dédicace de quelque ennuyeux burlesque. Point, point, je suis inexorable. Je veux que vous mouriez tout présentement. Puis, selon que ma belle humeur me rendra miséricordieux, je vous ressusciterai pour lire ma lettre. » Avec tout un jeu d'intertextualité sur l'Ovide en belle humeur, du même d'Assoucy. On comprendra peut-être mieux donc l'engouement de certains surréalistes pour Cyrano en savourant l'agressivité hyperbolique de certaines lettres. L'insulte y devient un art libérateur, propice aux associations parfois les plus inattendues. Ainsi, je vous recommande la lecture de la lettre à un gros homme, pas le temps, où l'insulte prend des dimensions cosmiques à propos du ventre de Montfleury. Dans la lettre à un pilleur de pensée, l'insulte confère à l'accusation de plagiat, un grand lieu commun des polémiques du Parnasse d'alors, des proportions vertigineuses. L'insulte sera appréciée en premier lieu pour son pouvoir d'éveil ou de réveil ou même de défamiliarisation, comme diraient les formalistes russes. L'insulte désennuie le langage. Sans doute y a-t-il une somptueuse gratuité des pointes, pourvu qu'elles brillent, il n'importe. Mais sous cette gratuité apparente, la pointe est l'occasion spectaculaire d'exhiber une liberté inouïe, qu'accompagne une joie destructrice. Le premier traducteur anglais des lettres de Cyrano, 1658, use à ce propos d'une métaphore suggestive, que j'aime beaucoup pour ma part. Ses productions abondent en pensées antithétiques et en scintillements d'esprit. Elles sont piquantes, aiguisées, étincelantes, comme les fragments d'un pilier de glace brisé quand le soleil luit sur eux. À chaque détour de la phrase abonde à même le langage, les monstres et les prodiges langagiers. La lutte est partout, même et surtout là où on ne l'eût pas attendu. Et toutes ces qualités contraires, écrit Cyrano, qui dès le commencement du monde se sont déclarées la guerre et qui jusqu'à sa fin n'auront jamais entre eux ni trêve ni paix. La lutte n'est pas seulement une nécessité de l'écriture pointue. Elle caractérise le référentiel que celle-ci prend pour objet, la nature. Une nature où originairement règne la discorde. Un cosmos où chaque élément semble devoir provoquer son contraire depuis la nuit des temps. On trouverait chez d'autres poètes proches de Cyrano maints exemples de cette lutte généralisée inscrite dans la nature elle-même. Au-delà des conventions propres au burlesque, la lutte apparaît alors fondamentalement comme un principe de différenciation spectaculaire du même et de l'autre, dans et par l'écriture. Lutte placée sous le signe de l'art de la pointe, évidemment, que Cyrano va emblématiser à diverses reprises, notamment dans le duel d'une rare violence qu'il oppose à d'autres écrivains, d'Assoucy et surtout Scarron. Après avoir été dans nos conversations 5 ou 6 jours à l'affût aux pensées, plus chargé de pointes qu'un porc-épic, il les vient ficher dans ses épigrammes et dans ses sonnets comme des aiguilles dans un peloton. Ou encore, il marche à rebours du sens commun et il en est venu à ce point de bestialité, donc là, à propos de Scarron, que de bannir les pointes et les pensées de la composition de ses ouvrages. Quand, par malheur, en lisant, il tombe sur quelqu'une, on dirait avoir l'horreur dont il est surpris, qu'il est tombé des yeux sur un basilic ou qu'il a marché sur un aspic. Alors, évidemment, si je devais compléter l'abécédaire, il faudrait d'abord revenir, me semble-t-il, sur l'article duel, parce que là, on aurait un dossier extrêmement conséquent. On ne serait pas surpris de constater l'omniprésence du duel dans les lettres de Cyrano. Alors, duel de l'épistolier avec le destinataire, mais aussi duel implicite avec le lecteur, avec ses attentes, avec ses préjugés, avec son esprit, des énigmes, des défis lui sont proposés. Duel avec le cosmos entier, qui lui-même est en lutte avec soi. Duel avec le temps qu'il fait, duel avec la dame, dans les lettres amoureuses. Duel avec fables et croyances de toute farine, dont se nourrissent les impostures, contre les sorciers, contre les médecins. Duel spéculaire avec l'image même du dualiste. Duel, enfin et surtout, avec la rhétorique et ses figures, ce duel-là, au fond, englobant tous les autres. En lisant certaines lettres, qui prennent à partie, en d'impressionnantes passes d'armes, leur propre rhétorique, on songe à ces passages où Gratian définissait l'art de la pointe comme une rhétorique défiant la rhétorique elle-même. La pointe, ainsi dans la lettre d'un cyprès, hein, qui dès les premières lignes affiche la pointe comme son principe de prolifération. J'avais envie de vous envoyer la description d'un cyprès, mais je ne l'ai qu'ébauché, à cause qu'il est si pointu que l'esprit même ne saurait s'y asseoir. Sa couleur et sa figure me sont souvenirs d'un lézard renversé qui pique le ciel en mordant la terre. Je n'ose quasi pas même approcher mon imagination de ses aiguilles, de peur de me piquer de trop écrire. De 20 000 lances, il n'en fait qu'une sans les unir. On dirait une flèche que l'univers révolté darde contre le ciel, ou un grand clou dont la nature attache l'empire des vivants à celui des morts. Début de la lettre d'un cyprès. C'est-à-dire que la pointe sur le cyprès et la pointe du cyprès sont véritablement en lutte, hein, l'une avec l'autre. Et elles seront alors appréciées pour leur valeur iconique et pour l'effet doublement piquant qu'elles auront sur l'imagination du lecteur, mise en mouvement à très grande vitesse entre la terre et le ciel, entre la vie et la mort, le cyprès et l'arbre des cimetières. Alors, assurément, l'analogie entre l'art de la pointe et la science de l'escrime n'est pas propre à Cyrano. On en trouverait maints exemples. Mais Cyrano l'a sollicité si souvent avec une telle virtuosité qu'il en a fait l'une de ses signatures les plus durables. Comme l'escrime, la pointe multiplie les menaces. Toute pointe en laisse présager une autre, plus terrible encore. Comme l'escrime, la pointe sera d'autant plus brillante qu'elle repose sur un art de la feinte, du détour. La pointe fusera là où on ne l'attend pas. D'où en cette technique du leurre et de la surprise, une connivence entre les feintes de la pointe, par détour puis retour vers la cible, et les fictions auxquelles la pointe fait appel pour mieux porter, et en particulier des fictions mythologiques totalement inattendues. Comme l'escrime, le mouvement de la pointe instaure une dialectique du continu et du discontinu. Après chaque touche particulièrement spectaculaire et réussie, préparé par une accumulation plus ou moins continue de pointes mineures, le style pointu marque un arrêt, une stase, où l'esprit se donne à admirer sous la forme d'un concetto, interrompant l'esquisse du tableau que la plume constitue sous nos yeux. Mais la pratique cyranienne de la pointe, dans les lettres, ne saurait se contenter de ces arrêts jubilatoires propres à l'esthétique conceptiste, ni de ce que j'appellerais ces petites morts successives de l'adversaire sur lequel l'escrimeur du langage s'acharne impitoyablement. Dans cette escrime épistolière débridée, La recherche continue de l'éclat s'estompe parfois au profit d'un discours plus nettement argumentatif, et on accède alors à un autre type de parole polémique. Dans certaines lettres, la plus célèbre étant à cet égard la lettre « Contre les sorciers », Cyrano fait pour ainsi dire œuvre de penseur critique, et le vraisemblable qu'il oppose au dogmatisme de certains philosophes semble prendre alors une valeur déterminante. Il sert à définir à la fois l'éthos et l'éthique du déniaisé, sa liberté même à l'égard du pouvoir de l'autorité, de la coutume, d'où qu'elle vienne en matière de croyance. Dans cette lettre, il écrit donc « La raison seule est ma reine ». Et la métaphore politique vaut sans doute, mais à condition de délimiter les modalités de ce pouvoir de la raison. Il est assez faux de dire, je crois, ou en tout cas, on ne dirait plus aujourd'hui, hein, comme le faisait Gautier, que la raison cède systématiquement. Hein. Il s'agit plutôt d'une raison d'un autre ordre, hein, qui se met en place. Le vraisemblable, en pareil contexte, n'a rien d'une sagesse un peu fade du juste milieu. Lorsqu'il s'agit de convaincre, hein, sur des thèses relevant du vraisemblable, eh bien, le vraisemblable vaut polémiquement d'abord contre la doxa, qu'elle vienne de l'université, de telle doctrine philosophique à l'honneur, ou tout simplement, chez Cyrano, des croyances du vulgaire. Et l'on pourrait dire que le vraisemblable, chez le Cyrano des lettres et de l'autre monde, apparaît bien souvent comme une des figures du paradoxe, du mouvement par position-opposition, pour-contre, qui relance sans cesse le discours. Je noterai que ce vraisemblable paradoxal qui s'exprime dans « Contre les sorciers », par exemple, joue avec la lettre précédente, totalement invraisemblable, pour les sorciers, où Cyrano raconte un rêve où il a été pris par un sorcier. Jeu dont il est difficile de caractériser le degré de parodie, d'ironie ou de rêve. Alors évidemment, il faudrait rappeler à quel point les polémiques, et certains dans notre équipe de recherche travaillent sur l'histoire des controverses scientifiques, hein, tout autour de Cyrano, le savoir nouveau, hein, qui l'intéresse prodigieusement, se constitue par polémique. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous lisons surtout les traités, mais comme disait Bachelard, hein, toute connaissance prise au moment de sa constitution est une connaissance polémique. Et peu de périodes hein, l'ont vérifié de cette manière-là. Et il faudrait analyser notamment pendant toute cette période, comment ces polémiques empruntèrent beaucoup aux exercices scolaires de la disputatio. Or, dans les lettres et surtout dans ses voyages hein, de Cyrano, les structures de la disputatio pro et contra demeurent prégnantes, mais sans jamais orienter l'esprit du lecteur vers des positions stables. Les jeux d'ironie, les éclats de la pointe, y subvertissent les acquis de tout débat. Même, on verra que dans les premières pages du Voyage dans la Lune, on assiste à des entretiens burlesques et pointus dont le statut intrigue. Il semble reprendre paradoxalement les débats polémiques les plus savants sur la pluralité des mondes, habités, hein, débat que Cyrano connaît fort bien, et sur certains enjeux majeurs de la révolution scientifique, mais tout en les mimant, ils les font apparaître comme des pointes, comme des jeux de langage, où l'imagination du lecteur se met à hésiter entre plusieurs types de registres, hein, entre celui d'une totale suspension de l'incrédulité et celui d'une mise en éveil de l'esprit, décryptant des thèses novatrices sous les jeux burlesques de la pointe. Et les positions antagonistes, hein, il y a des mondes habités, il y en a une infinité, il n'y en a pas du tout, sont présentées de telle manière que les hypothèses cosmologiques qui serviront de prémisse à la fiction, hein, l'envol vers la Lune, semblent suspendues à des jeux nominalistes sur les signifiants monde et lune, hein, qui suscitent toutes sortes de pointes paradoxales, de jeux d'esprit. Alors, l'instabilité même hein, du discours préfaciel, hein, par Lebray, hein, de l'édition posthume, en témoignera, la dimension heuristique hein, des entretiens en quête de vraisemblance, il sera à la fois, de façon plutôt confuse et tortueuse, défendu comme vraisemblable par Lebray et mis à distance comme pur jeu de l'imagination pointue. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela est intéressant pour nous. Cela veut dire d'abord que pragmatiquement, la pointe opère ainsi souvent une sorte de dénégation. Elle tente à neutraliser par avance les effets de polémicité en les affichant et en les parodiant. L'autodégradation de style burlesque semble déresponsabiliser les débats les plus hétérodoxes, qu'ils soient philosophiques, scientifiques ou théologiques, évoqués, tout en les faisant glisser du côté d'un jeu expérimental sur les mots et les images qu'ils éveillent, en dehors d'une problématique du vraisemblable. On sera surpris, dès lors, dans des contextes légers, burlesques, de rencontrer ici d'abondantes références à la philosophie, dans les lettres. Même dans les lettres les plus ouvertement polémiques. Alors, certains éléments philosophiques émergeant de façon superficielle dans les lettres réapparaîtront plus tard, de manière beaucoup plus sérieuse, dans les entretiens philosophiques du voyage dans la Lune et du voyage dans, le voyage dans le Soleil, comme les enjeux les plus décisifs de la polémique philosophique. Comme quoi, des pointes qui paraissent totalement légères vont être ensuite retravaillées comme les clés de renversement de point de vue. La pointe, c'est une question d'optique, comme disait Thésauro dans la lunette d'Aristote, qui vous permet de renverser les points de vue et de reconsidérer les rapports entre objets. Par exemple, alors je n'en suis pas encore là, « Oh, que n'a-t-il été connu d'Aristote ? Ce philosophe n'eut pas défini l'homme animal raisonnable. Ceux de la secte d'Épicure qui démontrent que les bêtes usent la raison en doivent accepter de celle-là, encore s'il était bien vrai qu'il fût bête. Mais hélas, dans l'ordre des êtres animés, il est un peu plus qu'un artichaut et un peu moins qu'une huître à l'écaille, etc. etc. » Or, ce type de pointe sur l'homme animal raisonnable va ressurgir presque mot pour mot dans des passages de l'autre monde où il s'agit de démontrer que le hasard a créé l'ensemble des mondes, l'homme y compris. Et on retrouve les mêmes schémas que dans la pointe de cette lettre-là. Où c'est une simple insulte. Son adversaire est quelque part entre une huître et un artichaut, dans l'ordre de la création. Je n'ai pas le temps de développer, mais... Dans l'univers des lettres, l'inflation de l'écriture relative au corps, alimentant les excès carnavalesques de la parole polémique, ne tient pas seulement aux habitudes des écrivains burlesques. Dans cet espace de jeu offert aux imaginations pointues, ce sont les rapports mêmes du corps et de l'esprit qui se trouvent sans cesse mis à l'épreuve et sans cesse rejoués. Ce qui nous amène donc, pour reprendre les questions que je voulais poser au départ, au-delà du jeu, usage de la pointe et stratégie libertine. Dans cet art de l'éloignement à très grande vitesse, que la lettre permet à Cyrano, et quel que soit le degré d'irresponsabilité affiché par l'écriture pointue et l'excès burlesque, ce serait mutiler les lettres que de les réduire à leur fonction poétique. Les versions cartonnées de certaines lettres, retrouvées par Madeleine Alcover, montrent, par leur suppression ou substitution, à quel point certaines d'entre elles jouent avec la censure. L'autodégraciation de style burlesque, cette posture volontiers violente, mais qui semble dire « au fond, ceci n'est que bouffonnerie », n'est-elle pas cette ruse de l'énonciation qui anticipe virtuellement sur la censure, extrait le texte de tout espace polémique trop direct ? Une certaine pratique de la pointe, et notamment de la pointe par équivoque, fit sans doute partie de la mythologie construite autour de la figure du libertin depuis le père Garras, c'est-à-dire pendant le procès de Théophile de Viau. Et Garras avait publié donc, un immense ouvrage, un polémique, d'où j'ai extrait le passage suivant. Donc, dans la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, De quoi s'agit-il ? Lorsqu'il fait état des événements préludant au procès de Vanini, Garas avait insisté sur les effets séducteurs des pointes de l'esprit fort. Dans le récit de Garas, la pointe intervenait comme l'emblème par excellence d'une technique de l'insinuation libertine, s'immisçant ainsi qu'un petit cheval de Troie rhétorique dans l'espace de la conversation entre gentilshommes de bon esprit. Selon Garas, seuls des esprits plus forts que l'esprit fort avaient pu, à l'image d'un certain Francon, à Toulouse, remettre à sa place le démon de libertin de l'équivoque, manipulé par Vanini, le maître des libertins. Le premier qui fit la découverte de ces horribles impiétés fut le seigneur de Francon, gentilhomme de bon esprit et de très grand courage. Il échut que sur la fin de l'an 1618, Francon étant allé à Toulouse, comme il était en estime de brave gentilhomme, il se vit aussitôt visité par un Italien, il s'agit de Vanini, duquel on parlait comme d'un excellent philosophe et d'un esprit qui proposait force curiosité toute nouvelle. Il ne se découvrit pas néanmoins d'abord, d'autant que c'est la maxime des méchants esprits, dit saint Augustin, de se glisser doucement dans la croyance et faire comme les aiguilles qui entrent par la pointe dans le drap et agrandissent l'ouverture pour en sortir, y laissant le filet attaché. Donc là, on est à la fois dans la pointe et le crochet, quelque chose qui accroche et qui déchire. Cet homme disait de si belles choses, des propositions si nouvelles, des pointes si agréables, qu'il s'attacha aisément à Francon par une sympathie de ses humeurs hypocrites, souples et serviables. Ayant fait l'ouverture de ses pointes, il commença à montrer l'étoupe. Peu à peu, il lâchait des maximes dangereuses, ambiguës, à deux revers, jusqu'à ce que ne pouvant plus contenir le venin de sa malice, il éclata tout à fait et prononça de si étranges blasphèmes contre la sacrée humanité de Jésus-Christ que Francon confessa depuis que les cheveux lui hérissaient sur la tête et qu'il mit deux fois la main sur son poignard pour le lui plonger dans le sein, mais qu'il fut retenu par une forte considération, voyant que l'affaire s'étant passée sans témoin, il pourrait être en peine après le meurtre. Il prit un meilleur expédient car il déféra cet impie au premier président, etc. Dans bien des lettres, diverses et satiriques, on trouvera comme des échos déformés d'une semblable pratique libertine de la pointe, reflétant elle-même une certaine façon de polémiquer de billets, par parasitage locaux des plaisirs ordinaires de la conversation et du trait d'esprit mondain. Les lettres, et pas seulement celles qui ne furent pas publiées, multiplient les points d'ancrage dans la littérature des manuscrits clandestins. Ainsi, l'art de l'insulte que je viens d'évoquer prend appui à diverses reprises sur certains points sensibles des argumentations théologiques mises à mal par le contre-discours des esprits forts. Et au premier chef, les preuves de l'existence de Dieu, si souvent sollicitées par Cyrano dans des contextes pour le moins incongrus, notamment la fameuse preuve physico-théologique, prouver l'existence de Dieu par l'harmonie du monde, preuve parfois reprise sous une forme parodique, comme dans certaines lettres amoureuses, parfois retournée de façon violemment paradoxale, l'infinie laideur, l'infinie bêtise ou l'infinie méchanceté du destinataire apparaissant comme une preuve de l'infinie bonté du Créateur. Seul un Dieu infiniment bon a pu la laisser exister en ce monde. Dans un autre registre, que penser au juste des références aux accusations d'athéisme que l'épistolier fait semblant de reprendre à son compte, contre divers adversaires, mais de façon pour le moins équivoque. Par exemple, dans la lettre contre Soucidas, « Ma foi, vous donnez un beau démenti à ces philosophes qui se moquent de la création. S'ils s'en trouvent encore, je souhaite qu'ils vous rencontrent, car je suis assuré qu'après votre vue, ils croiront aisément que l'homme peut avoir été fait debout. Ils vous prêcheront et se serviront de vous-même pour vous retirer de ce malheureux athéisme où vous croupissez. Vous savez que je ne parle point par cœur et que je ne suis pas le seul qui vous ait entendu prier Dieu qu'il vous fît la grâce de ne point croire en lui. » Et là, ça se met à dégénérer. Un autre extrait de la lettre amoureuse 7, alors là, on est dans les lettres amoureuses, objet d'une prudente autocensure lors de la demande de privilège, relève du même type d'ironie. Recevez donc cet acte de foi que je fais à l'agonie. Premièrement, je ne suis point athée puisque je vous adore. Je crus fermement que Dieu s'était incarné, aussitôt qu'on me dit que vous étiez né d'une femme. Les prières, les vœux et les respects que je rends à Saint-Denis, nom probable de la ou du destinataire, témoignent assez de la vénération que je porte au saint. L'espérance de votre possession n'a jamais enflé ma nature que je ne me sois trouvé convaincu de la résurrection de la chair. Que penser également d'autres réseaux de surdétermination qui vont multiplier au fil des analogies burlesques, au fil des lettres, les analogies burlesques entre l'esprit du destinataire et la matière de son corps. Alors, combien de temps me reste-t-il, Antoine ? Ah, c'est catastrophique. Mais je voulais lire quelques textes plutôt que de les résumer. Donc, je conclurai. La dernière partie est une partie plus politique, c'est-à-dire sur les textes relatifs à la fronde et comment cette esthétique de la pointe agi en rapport avec tout l'arrière-plan des libelles, des mazarinades. Donc là, ce serait un autre exposé, d'une certaine manière, c'est-à-dire la question de ce type d'écriture dans le contexte de la fronde et des mazarinades. Et avec l'utilisation chez Cyrano d'argumentations parfaitement ironiques, parfaitement réversibles, grâce au jeu pointu qu'il met en place, dans une lettre en apparence destinée à défendre Mazarin contre les frondeurs. Donc je saute cette partie, je vous en ai dit simplement le contenu, pour en venir aux trois points de conclusion, qui sont trois points d'abécédaire, en quelque sorte, qu'on pourrait prolonger. En guise de prolongement, je voudrais mentionner trois types d'exercices récurrents en un moment critique de l'histoire du libertinage, avec trois entrées qu'il faudrait compléter, l'entrée équivoque, l'entrée grimace et l'entrée souplesse. Équivoque. Le jeu équivoque avec les genres littéraires constitue assurément un des aspects les plus marquants et insaisissables à la fois du dialogue à distance avec la censure. Nul ne dispose d'un code établi, d'une graduation objective et fiable, des degrés de responsabilité éthique associés à tel ou tel genre. Mais que certains genres permettent davantage de liberté que d'autres, voici un constat diffus dont on trouvera maints indices et maints témoignages au sein de la communauté interprétative où le censeur lui-même prend place. Constat dont on trouve trace notamment dans le dictionnaire de Pierre Bayle, par exemple, l'article Garas, ou encore tout au long du procès de Théophile lui-même, où la question de la licence poétique avait été évoquée par les juges du procès comme une ruse libertine qui ne saurait les abuser. On peut dire en poésie des choses qu'on ne peut pas dire en prose dans un traité. Passant d'un genre à l'autre, en traversant les genres et en les parasitant de son ironie nomade, en les entrefécondant d'improbables métissages, le style burlesque et l'esthétique de la pointe purent s'affirmer dans ce contexte, comme autant de défis à la sagacité du censeur, porteur d'interrogations chroniques quant au degré de responsabilité que ce dernier était susceptible d'associer à des jeux aussi bouffons, aussi peu sérieux. Une lecture plus attentive permettrait de montrer comment l'écriture pointue permit à Cyrano d'incorporer silencieusement certains éléments du procès de Théophile de Viau à la scénographie de sa pratique virtuose de l'équivoque. Comment ? Par toute une série de décontextualisations et de recontextualisations imaginaires, les genres mobilisés, la lettre satirique, la tragédie, le voyage imaginaire, étant utilisés comme des opérateurs de travestissement, de transposition, d'anamorphose. Deuxième entrée qui me semble très intéressante, la grimace. Ce qui rend ce sport de combat particulièrement subtil et retors pour nous, c'est que ses aspects offensifs les plus éclatants se mêlent à des stratégies défensives plus déconcertantes et obscures encore par leur degré d'équivocité. Le dosage entre l'attaque et la défense passant notamment par un art de la parodie, par une science de l'imitation du censeur, de l'adversaire, du persécuteur potentiel, dont la figure se dégage à l'horizon du texte, même le plus futile ou le plus burlesque en apparence. Même dans les lettres les plus ludiquement burlesques, on peut être sensible au caractère grimaçant d'une escrime où l'on ne cesse de mimer les postures pour mieux les prendre à contre-pied au fil de la pointe. Or, s'il y a une qualité ou plutôt une notion qui mérite un ample détour dans ce type de corpus, c'est bien celui précisément de grimace, image qui apparaît dans la bouche du démon de Socrate, éminente figure de l'ironie déniaisée dans le voyage dans la lune, puis dans le soleil. Au cours du voyage lunaire, le démon de Socrate, évoquant parmi ses fréquentations Campanella, le philosophe Campanella, torturé par l'Inquisition pendant une très très longue période, avait donné comme au passage cette précision. Ce fut moi, voilà. Ah, je me suis trompé. Voilà. Ce fut moi qui l'avisai, pendant qu'il était à l'Inquisition à Rome, de styler son visage et son corps aux grimaces et aux postures ordinaires de ceux dont il avait besoin de reconnaître l'intérieur, afin d'exciter chez soi, par une même assiette, les pensées que cette même situation avait appelées dans ses adversaires, parce qu'ainsi il ménagerait mieux leur âme quand il la connaîtrait. Il commença à ma prière un livre que nous intitulâmes « De sensu rerum ». L'art de la mimique permet à l'acteur libertin d'entrer dans la pensée du censeur, de la connaître, de parler comme il parlerait. Sous cet épisode étrange, le lecteur déniaisé sera décrypté toute une technique de soi proprement politique, de la contrefaçon. Dimension politique qui apparaîtra d'autant plus nettement que la source probable de ce passage faisait explicitement écho au contexte de la persécution du vrai Campanella par l'Inquisition. Cette source, ce serait, selon bien des commentateurs, un passage des Curiosités inouïes de Jacques Gaffarel. Gaffarel y avait raconté ainsi sa rencontre avec Campanella, incarcéré et torturé dans les prisons du Saint-Office. Nous étant assis, nous aperçûmes qu'il faisait souvent certaines grimaces qui nous faisaient juger qu'elle partait ou de folie ou de quelque douleur que la violence des tourments dont on l'a affligé lui eût causé. Il est torturé. Un des nôtres lui ayant demandé s'il ne sentait point de douleur, il répondit en riant que non. Et jugeant que nous étions en peine des grimaces qu'il avait faites, il nous dit qu'à notre arrivée, il se figurait le cardinal Malagotti, comme on lui avait dépeint, et nous demanda s'il était fort chargé de poils. Pour moi, je conçus incontinent que ces grimaces étaient nécessaires pour bien juger du naturel de quelqu'un. L'ironie libertine participe ainsi d'une heuristique, la parodie grimaçante d'une connaissance par imitation. Et on trouve des textes de Gabriel Naudet qui reprennent ce motif. Alors, ces variations sur les pouvoirs de l'imagination et sur ceux de l'ironie peuvent recouper localement la réflexion libertine sur les pouvoirs de l'imposture. Entre les pratiques du libertin et celles de l'imposteur, les effets de spécularité se multiplient. L'art de la pointe suppose tout cela. L'escrime des mots, et en particulier la pratique débridée de l'équivoque, exhibent entre eux ce type de savoir mimétique, cette capacité par équivoque à entrer dans le discours de l'autre qui va vous punir et vous juger, pour mieux le déjouer, pour mieux s'escrimer avec lui. Les lettres, de ce point de vue, furent pour Cyrano bien plus que de simples exercices de style, bien plus qu'une préparation au roman. Elles jouent et rejouent sans cesse à travers un jeu de rôle déconcertant ce travail sur soi de l'acteur déniaisé, mettant à l'épreuve la liberté dont il est virtuellement capable, invitant le lecteur à entrer dans le jeu, à entrer dans ce cercle des déniaisés disparus, si l'on veut. Comment ? En testant la force de son imagination, mais aussi sa souplesse. Et souplesse, ce sera mon dernier mot. Entre art d'écrire et art de lire, souplesse de l'esprit fort. Entre ces différentes sortes de paradoxes, le jeu de la lecture sera nécessairement souple et graduel. Esprit fort, le lecteur ne pourra jamais l'être en adhérant de manière absolue à des thèses hétérodoxes. Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Mais d'abord de manière relative, par la souplesse de ces évaluations. Et l'on songera au passage aux propos très intéressants de ce point de vue de Samuel Sorbière, attribué à Samuel Sorbière, que vous connaissez pour être le grand traducteur et diffuseur de Hobbes, et aussi le plus grand disciple ou un des plus grands disciples de Gassendi. Propos consacrés à la notion même de souplesse, qui devient une entrée à part entière dans ce petit recueil. Souplesse. Les badauds qui voient les tours de passe-passe, les jeux de cartes et les autres adresses surprenantes des battleurs croient que le diable s'en mêle et qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'il n'y ait en tout cela que de la souplesse et qu'un prompt mouvement de la main. Je ne pouvais me persuader en mon enfance que les danseurs de cordes n'eussent fait pacte avec le démon. Et non seulement je trouvais des femmelettes qui tombaient dans mon sens, mais si l'on eût recueilli les avis de toute la ville, le mien eût prévalu sur celui des personnes bien sensées. On aime naturellement la dogmatique, et le peuple, qui est toujours fort ignorant, ne veut point être pyrrhonien. Il aime mieux rendre quelques raisons vaille que vaille que d'avouer qu'il ne l'a pas encore trouvée, et le diable est un agent qui emploie en toute occasion, quoi qu'il ne lui donne aucune idée de la manière en laquelle se font les choses dont on ignore les véritables causes. Les personnes sages n'en usent pas ainsi et aiment mieux dire franchement qu'ils ne savent pas particulièrement comment les choses arrivent que d'en rendre des raisons frivoles ou dont ils connaissent la fausseté. Je crains que ce procédé des badauds ne se puisse appliquer à quelques philosophes qui veulent rendre raison de toutes choses en appelant à leur secours les métaphysiques. J'arrêterai là.
Merci beaucoup pour cet exposé sur Cyrano qui nous montre bien comment il est le modèle de toute cette art de l'escrime littéraire du XIXe siècle. Il est là. Je pensais, en vous écoutant, à plusieurs choses que j'aimerais bien pouvoir développer, mais on ne pourra pas. Premièrement, vous avez bien montré comment cet art de la pointe est non seulement déconstructeur, mais aussi, comment dire, thétique. Il ne s'agit pas seulement d'attaquer et de défaire, mais aussi de construire. Et alors aussi, l'autre point auquel je pensais dans votre insistance sur l'équivoque, c'est combien la présence d'une instance de censure est importante. Et je dirais que dans la période à laquelle je m'intéresse, en gros de 1820 à 1870, tout ce qui se produit est dans un climat de plus ou moins de censure. Et il y a une constante dialectique du... Non seulement c'est un combat avec d'autres, mais c'est un combat avec la censure. Et je crois que j'avais dit lors d'une des premières leçons qu'il y avait une relation tout à fait directe entre le degré de liberté de la presse et la multiplication des duels, par exemple. Et je pense qu'il faudra que je revienne à cela. Quant à la dimension de la grimace ou du grotesque, elle est évidemment très importante dans cette affaire. Une réaction ? On n'a pas beaucoup plus de temps, mais...
Non, c'est vraiment extrêmement important. D'autant plus que là, très souvent, par exemple, les lettres n'ont pas été censurées dans un premier temps, ou en tout cas... Oui. La première édition, c'est lui-même qui s'est auto-censuré, puisqu'on a, oui. ou des gens proches de lui, puisqu'on a les cartons, les fameux cartons, oui. C'est-à-dire des éditions où on a coupé la page, une partie de la page, en substituant des passages plus inoffensifs. Voilà. Cette politique de la grimace, moi, ça m'avait frappé, puisque Naudet, dans un traité politique sur les coups d'État, en parle comme quelque chose d'extrêmement important. Et Inaudet décrit des techniques dignes de l'acteur studio, véritablement, en développant la même thématique en rapport avec Campanella, avec la théorie de Campanella. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Mais évidemment, ça fait partie des choses que je n'ai pas pu développer.
Merci de l'introduction à Cyrano.